Longtemps silencieux, André Dufour a eu la gentillesse, ce 23 décembre dans la soirée, de nous accorder cet entretien. Une heure de conversation à bâton rompu avec ce résistant, qui ne désarme toujours pas. Une façon pour Liberty Vox de vous souhaiter un joyeux Noël 2011, et avec un peu d'avance une excellente année 2012.
Comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas entendu sur les ondes. Ça date de l'époque de Rocky, il y a quelques années. Et depuis, à part quelques articles à la une de Liberty Vox, c'est vrai qu'on ne t'entend guère. Alors donne-nous un petit peu de tes nouvelles. Que deviens-tu? Que fais-tu?
Eh bien, d'abord, je subis des ans l'irréparable outrage. Et contrairement à ce que disait Charles de Gaulle, qui a parfois dit des conneries, et quand ça vient d'un grand homme, ce sont des grandes conneries. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est une arrivée à bon port. Le naufrage, c'est de se planter en moto contre un camion, puis de crever à 20 ou 30 ans.
Alors, quel âge as-tu exactement? Tu es né en 1924.
Eh bien, je vais bientôt souffler mes 88 bougies, ce qui fait un sacré chandelier.
88 bougies, je vois que même si tu parles des outrages du temps, visiblement tu as quand même toute ta tête et d'après ce que je lis dans les quelques articles que tu publies encore,
la tête marche mieux que les jambes.
Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui aimeraient arriver avec une tête aussi bien faite à ton âge.
Eh bien, je souhaite à tous mes auditeurs d'atteindre mon âge, parce que quand on est vieux, on a moins l'avantage d'avoir eu tous les âges des autres.
Oui,
et avant le sien.
Tu as eu malheureusement aussi l'avantage ou le désavantage, je ne sais pas, de connaître la France d'avant-guerre, la Deuxième Guerre mondiale et les années qui ont suivi.
J'ai été à une cérémonie que je ne localiserai pas, ça n'a aucune importance, où j'ai été présenté comme un monument historique. C'est pas très flatteur, mais comme je ne drague pas parce que les filles courent plus vite que moi, eh bien, ça me dérange pas d'être un monument historique.
En parlant de monument historique, tu as connu une France, malheureusement, que les jeunes générations qui nous écoutent n'ont malheureusement pas pu connaître. Je veux dire par là une France qui ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui. Quelle différence majeure vois-tu entre la France des années 30, 40, puis la France d'aujourd'hui? Comment vis-tu cette évolution et qu'est-ce que tu en penses?
C'est difficile parce que le monde n'est plus comparable. Il fut un temps, enfin, dans ma jeunesse, quand je devais aller d'un pays à l'autre en Europe, il fallait demander un visa. Il fallait aller, ce qui fait que dès qu'on sortait des frontières françaises, eh bien, il fallait montrer un visa pour continuer son voyage, donc un passeport. Mais la France était française, les Français aimaient la France. Ils étaient même très chatouilleux sur l'honneur de la France. Et pas uniquement comme supporter d'un match de foot, et puis après, bien, on n'en a rien à foutre. Mais réellement, à mon époque, les adultes, puisque j'étais adolescent, mais les adultes, ils avaient pratiquement tous fait la guerre de 14-18, ils ont fait les tranchées. J'avais un voisin qui s'appelait Monsieur Bonnet, qui était pensionné parce qu'un gazé, et il avait été suffisamment gazé pour ne plus pouvoir travailler. Et on était assez pacifiste, mais tout de même, on n'était pas xénophobe, contrairement à ce qu'on pense. Oui, bien sûr, il y avait le coup de gueule contre les Ritals, contre les Juifs parfois. Finalement, les gens s'intégraient bien. Ce qu'il y avait, c'est qu'un étranger, quand il arrivait en France, les enfants s'intégraient les premiers, ils apprenaient le français à l'école, les parents les y encourageaient, et ce sont les enfants qui devenaient ensuite les intégrateurs de leurs parents. Et ça a marché comme ça pour des vagues d'immigrés d'Italie, de Pologne. Je citerai un exemple. Un homme qui avait de ma génération, qui s'appelait Charpak, et ses parents ont fui l'antisémitisme polonais, ils se sont installés en France, et le jeune Charpak, qui avait mon âge, eh bien, plus tard, il a quand même donné un prix Nobel à la France, eh bien, chapeaux, c'était des écharpas qui se voulaient français. Et
Quand
les...
as-tu vraiment ressenti qu'il y avait une sorte de bascule qui s'opérait et que la France que tu avais connue est en train de disparaître? Et pour arriver à la situation d'aujourd'hui et à certains outrages, on va dire, relativement irrémédiables.
Eh bien, il y a eu un sursaut avec l'occupation allemande, parce que même les collabos, du moins une partie des collabos, croyaient servir la France, mais ils la servaient mal, à mon avis. Mais bon, ils étaient français. Bon, je parle pas de quelques dévoyés, quelques ordures du genre de Doriot ou de Mar. Alors Marcel Déat, c'est spécial. Marcel Déat, ah, il me rappelle tout à fait comment dirais-je, les politiquement corrects d'aujourd'hui. Tout à
Des
fait.
noms, des noms.
Et le journal Le Monde.
Oui, je
Il
savais, je vois.
était, il était, il dirigeait le journal L'Œuvre. Et le journal L'Œuvre avait une tenue sérieuse. D'ailleurs, les profs de français à l'école nous ont recommandé la lecture. Or, Marcel Déat, représentait ce courant d'une France de gauche et d'une France, plutôt pacifique. Lorsque les premiers réfugiés sont arrivés d'Allemagne pour dénoncer l'hitlérisme, alors il n'y avait pas que des juifs, il y avait aussi des hommes de gauche, des socialistes, des francs-maçons qui arrivaient en France et qui donnaient l'alarme quand même. Et Marcel Déat, et puis il n'y a pas que lui, il y avait un billettiste dans le journal L'Œuvre qui signait Alain,
Le
et qui
philosophe,
était philosophe,
ah
paraît-il,
oui.
et qui disent aussi qu'il ne faut tout de même pas que ces réfugiés, et les Juifs en particulier, essayent d'entraîner la France dans une guerre pour un problème peut-être grave, mais qui est la France n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays, bon, surtout de l'Allemagne. Alors c'était ce courant-là, et lorsque on approchait de la guerre, je me souviens d'un gros titre à la une du journal L'Œuvre, Mourir pour Danzig. C'est les Allemands qui revendiquaient la suppression du corridor polonais qui coupait un bout d'Allemagne, la Prusse orientale, du reste de l'Allemagne. Et bon, alors, on justifiait toujours les revendications croissante de l'Allemagne nazie. C'est exactement aujourd'hui, on a la même chose, seulement on satisfait les revendications croissantes d'une certaine idéologie qui, sous couvert de religion, n'est en réalité qu'un impérialisme, un impérialisme totalitaire.
Tu parles de l'islam,
Je
je
ne veux pas donner,
suppose?
ah, moi je l'ai pas dit parce que je n'ai pas
Non,
envie
non,
de
non.
m'expo je n'ai
Tu
pas
as
envie de
déjà fait un
m'exposer aux
séjour,
poursuites.
tu as déjà été convoqué rue du Château des Rentiers par la police. Je pense que
Absolument,
cette expérience. Non,
oui.
non, j'endosse toute la responsabilité.
Oh, j'assume parce que je n'ai jamais été anti-allemand. Je parle l'allemand. J'ai eu d'excellents contacts avec certains Allemands, y compris avec des officiers allemands, qui la confiance aidant. Ils ont même, j'ai connu des officiers allemands qui ont favorisé l'évasion de juifs. Et il risque gros, parce il faut s'imaginer ce que ça pouvait représenter à l'époque pour un Allemand. Même de dire, c'est en octobre ou novembre 42 qu'un officier allemand m'a dit, si vous connaissez des Juifs, prévenez-les, ceux qui sont déportés sont exterminés. Ce ne sont pas des camps de travail, ce sont des camps d'extermination de femmes et d'enfants. Et ce sont les personnes intéressées que j'essayais de prévenir, qui me riait au nez en me disant que je divaguais, que j'étais un adolescent. Il me disait, ah, c'est J3 qui veulent enseigner. Les J3, c'était la désignation de la carte d'alimentation. J3, ça veut dire jeune troisième catégorie. On était les mieux nourris.
Tu étais déjà dans la résistance à cette époque ou tu y entrais un petit peu après?
Alors, 42, c'était en octobre, novembre 42,
18 ans.
j'avais 18 ans déjà. Mais comme on était majeur à 21 ans, ben à 18 ans, on était encore un jeune.
Et tu t'es retrouvé donc dans un réseau de résistance un
Je
peu
me suis
par les.
retrouvé donc dans un réseau, oh, c'était très informel. Aujourd'hui, quand on dit raison, on s'imagine toujours qu'on adhère, qu'on a une belle carte magnétique là, avec une puce pour se faire reconnaître. C'était tout sauf ça, parce qu'il fallait surtout n'avoir aucune trace d'une appartenance. Mais on était des petits groupes qui avaient toujours un qui était relié à quelqu'un d'autre. Mais déjà, on essayait de rendre service.
Tu
On se
étais dans tu étais
débrouillait.
dans les dans les Ardennes, d'après
J'étais aussi, j'étais beaucoup dans les Ardennes, oui, entre autres, mais aussi en Normandie, et pendant ces années de guerre. Et c'est en revenant des Ardennes pour me rendre en Normandie que j'ai enfin trouvé un groupe de FFI, et donc j'ai adhéré au FFI, mais encore une fois, on se promenait pas avec une carte d'adhérent.
En quoi consistait ton rôle dans ce petit réseau des Ardennes, puis dans ce réseau en Normandie?
Bien, je n'étais pas un foudre de guerre. J'utilisais surtout mes connaissances d'allemand et pour bavarder avec les Allemands. C'était facile de contacter, même de rapporter tout, même des détails qui semblaient sans importance. Mais je suppose que quelque part il y avait un recoupement de tout. Et je n'étais pas le seul informateur. On réussissait quand même à avoir un certain nombre de renseignements. Disons que je travaillais. Et je finis par, j'ai été amené à faire le coup de feu, mais disons que je n'ai jamais été un bon tireur, donc je peux dire que je n'étais pas un combattant armé, encore que je me baladais encore avec une arme.
Bien sûr.
Bon, voilà. Donc, mais ça c'est accessoire. Je veux revenir seulement à la perte de l'attachement à la France. Il y avait une identité française très forte. Et ceux qui avaient cette identité française, c'était pas seulement les Français de souche, ou comme disent nos chances pour la France, des souchiens. On était Français tout simplement parce que puis on savait qu'on avait quelque chose à défendre. Et ça a commencé à basculer après-guerre. Et là, il y a un phénomène terrible, c'est que il y a eu la Shoah, l'extermination des Juifs. Et on a dit vraiment que la Shoah n'a été possible que parce qu'il y avait de l'antisémitisme qui était d'abord verbal ou écrit ou littéraire, mais avec l'Allemagne hitlérienne, c'était le passage à l'acte. Et quel acte? Alors on a commencé à légiférer contre les propos racistes. Et c'est un bien, mais chaque bien a son revers. Et le revers, c'est que on a aussi les forces anti-françaises ont utilisé cette loi pour défendre un courant d'immigration qui devenait de plus en plus superflu. Je dis superflu parce que au début, la France avait besoin de main-d'œuvre et qui arrivait à travailler, eh bien, c'était d'abord et essentiellement des Italiens et des Espagnols. Et puis très peu de Maghrébins. Mais les Maghrébins, ça ne posait pas de problème. Ils arrivaient seuls, ils travaillaient, ils remplissaient un contrat en usine ou sur un chantier. Et puis quand c'était terminé, bien, ils rentraient chez eux ou pendant leur période d'activité, ils passaient leurs vacances dans le pays. Ils faisaient un gosse à l'une de leurs femmes et puis un autre gosse à une autre épouse. Et puis, bah, il faut bien quand même faire son devoir. Et puis, il repartait en France. Et puis, voilà. Bon, c'est avec Giscard d'Estaing, je crois, qu'on a sorti la loi du regroupement des familles.
Je crois que c'est en
Le regroupement
74 de
familial.
mémoire, mais genre
Pardon?
74 ou 75.
Alors là, c'était un basculement. Parce que la famille, c'est quoi? Allez savoir dans tous ces noms et prénoms, qui est vraiment s'il y a vraiment un lien de parenté ou pas, mais ce fut une arrivée massive, mais massive, colossale. On oublie qu'en France, au plus fort de la xénophobie, avant la guerre, je parle, la France comptait environ 2 millions d'immigrés, pour la plupart de souche européenne. Et comme je le disais au début de notre entretien, si les parents essayaient quand même de parler français, ce sont surtout les enfants qui étaient les éléments, grâce à la scolarité, et les enfants étaient l'élément intégrateur de leur famille. Et ce sont les parents qui finissaient par s'efforcer de parler français avec leurs enfants. Et là, c'était le déversement d'une immigration, et qui coïncidait aussi avec la fin de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. C'est-à-dire que l'immigration massive et non productive a coïncidé avec l'époque où on avait de moins en moins besoin de cette immigration. Ben, nous sommes arrivés à cette situation que nous connaissons maintenant.
Pourtant, il y avait des, pardonne-moi de t'interrompre, il y avait des gens comme Jean Raspail, qui dans Le Camp des Saints, en 1973, décrivait un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire ces arrivées massives sur nos plages.
Oui, c'est vrai,
et décrivait
mais
déjà
combien...
les différents types de réactions possibles face à ça, c'est-à-dire rejeter ou pas rejeter, que faire. Et comment expliques-tu cette espèce de fuite en avant vers le pire, finalement, de ce que Camus appelle le grand remplacement, c'est-à-dire d'une véritable substitution de population. Comment expliques-tu ce peu de réaction du corps social, si on prenait la France comme un corps humain, le peu d'anticorps, en fait,
alors,
face
les
à cette invasion ?
L'anticorps, évidemment, Jean Raspail peut faire partie de ce que tu appelles un anticorps. Seulement, voilà, n'oublions pas que la France a été victime d'une alliance que l'on dirait contre nature, entre une gauche anticapitaliste et, je ne dirais pas une droite, mais un capitalisme industriel qui était favorable. Alors, le capitaliste était favorable à une immigration massive et qui permettait d'avoir une main-d'œuvre à bon marché. Et tant pis si cette immigration voulait dire qu'il y aurait une charge d'allocation familiale, d'aide sociale aux enfants de ces travailleurs, c'est-à-dire que le travailleur immigré qui coûtait moins cher à son employeur coûtait plus cher à la nation. C'est très bien de faire venir un Malien ou un Maghrébin travailler, mais s'il a 8 ou 10 enfants avec une ou deux épouses, eh bien ses enfants, leurs soins médicaux, les cantines scolaires gratuites, le logement subventionné, tout ça, c'est à la charge du contribuable, du cotisant, puisque ce sont les salariés actifs qui cotisent. Alors, résultat, le profit allait dans la poche de l'employeur. On a vu dans le bâtiment où les ouvriers étaient carrément employés au noir. Ben, comment le faisait-il? Alors que, quand je pense que certaines des entreprises sont des sous-traitants de gros groupes tels que Bouygues, comment ils font pour passer en comptabilité ces salaires, ces paiements noirs? Enfin bref, le profit pour la classe, pour les employeurs, et puis les pertes pour la nation. Alors, on aurait pu dire la gauche, elle aurait dû immédiatement se dresser comme un seul homme et dire ah non, ça va pas, on n'est pas raciste, mais une concurrence déloyale, vous êtes en train de nous briser nos acquis sociaux. Eh bien non, alors là, il y a eu ce courant, je dirais, le gauchisme, altermondialiste, et puis le complexe de culpabilité, ce sont nos anciens colonisés, et versant une larme, et puis regardez, on ne peut pas tout de même se dresser contre ces pauvres immigrés, ou alors on réédite la Shoah. On n'aime pas les Juifs, mais on arrive même à nier la Shoah, mais néanmoins, on s'en sert quand même pour stigmatiser ceux qui s'opposent à une immigration superfétatoire. Avant, sur 100 immigrés, il y en avait 90 qui venaient pour le boulot. Maintenant, sur 100 immigrés, il y en a des 15 ou 20 qui viennent pour le travail et les autres pour les avantages sociaux.
Moins que ça encore. Puisque
pardon,
je crois que c'est encore plus que
c'est
ça.
Peut-être
c'est que
moins,
je crois qu'on est aux alentours de 90% qui viennent au titre du travail.
Absolument.
Et le reste au titre du regroupement familial.
Alors, quand on nous parle de la dette colossale et maintenant de la rigueur, eh bien, on veut taper sur tout, mais surtout pas sur les coûts sociaux d'une immigration qui est parasitaire. J'appelle parasitaire parce que il y a très 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 peu de réfugiés politiques.
Marine Le Pen, citant Yves-Marie Lolland, un démographe, parle d'un coût de 70 milliards d'euros de l'immigration en France. C'est-à-dire, c'est vraiment énorme dans une période où nous avons
un
déficit
abyssal.
Borevitch parle d'une trentaine de milliards et Lolland d'environ 70 milliards. Nous vérifierons, enfin les libertinautes vérifieront les sources, mais
Oui,
je pense que
oui.
ces chiffres sont proches de la vérité.
Non, non, mais ça, il faut pas en parler. Alors, on parlait de Jean Raspail tout à l'heure. Combien de fois a-t-on vu sur le plateau de télé, on réunit sur un plateau des écrivains, des auteurs de différents ouvrages, combien de fois avons-nous vu Jean Raspail?
Rarissimement, on l'a vu,
Alors,
et
la
on l'a vu deux, trois
promotion.
fois à l'occasion de la
Oui,
réédition de son
encore,
livre, et encore.
on va l'entourer de chacals et de chiens qui vont aboyer, qui vont l'interrompre tout le temps, parce
Ah, eux.
que lui couperont la parole. Alors, résultat, Jean Raspail fait un sondage. Le 9/10 de personnes qui lisent ne connaissent pas Jean Raspail. Oui, et pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune promotion. Personnellement, je n'ai jamais vu une publicité, une promotion sur un plateau télé ou à la radio. Je n'ai jamais entendu la promotion de Jean Raspail.
non, mais il y a une véritable omerta autour de ça, et je pense que toute voix discordante venant critiquer justement ce dogme de la diversité, etc., est une voix immédiatement reléguée, et immédiatement l'auteur de ces propos se fait traiter de fasciste. C'est la grande technique,
Oui, Jean
justement.
Raspail est traité de fasciste. Or, il n'est pas fasciste. Il n'est même pas identitaire. Ou alors, vouloir que le paysage de la France ressemble à la France et non pas à Tizi Ouzou, eh bien, ce n'est pas.
Non,
Après tout,
il est royaliste, c'est tout.
nous avons en France des commissions des sites. Et on peut pas construire une tour de 40 étages à Versailles parce qu'il y a là une perspective. Il y a tout. Un promoteur qui voudrait construire un immeuble se verrait frapper de nombreux interdits. Regarde le ramdam qu'on a fait en Suisse lorsque, par un vote populaire, par un référendum, on a non pas interdit l'islam, on n'a pas interdit les mosquées, mais dire respectons les règles du paysage suisse, ne faisons pas de minaret. Eh bien, comment il s'appelle?
Oscar Freisinger.
Oui. Il est présenté comme un extrême droite fascisante
Ah
venant
bah
d'un
oui,
chien.
et
Alors, les
regarde
architectes.
Geert Wilders en Hollande.
Bon, bah alors,
C'est
nos,
qui
archi nos, nos, nos urbanistes qui veillent au respect du paysage sont des fachos aussi, puisqu'ils interdiront certaines constructions.
Oui, enfin, en plus, ceux qui traitent de fascistes, ceux qui s'opposent à ce grand remplacement, à cette islamisation, sont les premiers qui empêchent quiconque de parler. J'en veux pour exemple
Oui, mais.
Marine Le Pen invitée par des étudiants à s'exprimer à l'université de Paris-Dauphine. Comme tous les autres candidats, d'ailleurs, à la présidentielle, Marine Le Pen a été accueillie par un commando de gauche alliant l'ENPA, la Jeunesse Socialiste, l'Union des étudiants juifs de France et j'en passe et des meilleurs
Oui, encore,
ont tout
quand
fait,
tu
qui ont
parles
tout
de
fait
l'Union des
pendant.
étudiants juifs de France ou des
Oh bah
autres, ils ne représentent que même,
ils
ce sont
représentent,
quelques trotskistes.
ce sont des trotskistes, c'est ce que j'allais
Ce sont
dire,
des
oui.
trotskistes qui se sont infiltrés là-dedans et puis qui tiennent les rênes. La LICRA qui luttait contre l'antisémitisme, c'est un bon combat, à mon avis. D'ailleurs, ça remonte à avant-guerre, je crois qu'il
Oui,
s'appelle
mais
Bernard Lecache, le fondateur.
malheureusement, la LICRA est devenue une sorte de marabis, de toute
Ah oui,
façon.
c'est pourquoi? Parce que ce sont des gauchistes qui se sont infiltrés aux commandes et puis maintenant,
Oui, et
il
puis le
n'y
quand tu
a rien à faire.
quand on
Mais ils ne
prend.
représentent pas l'opinion. Moi, l'opinion, c'est. J'ai vu un petit rabbin d'une ville de banlieue qui était avec son fils qui portait une kippa et ils se sont fait agresser par des musulmans et alors ils ont par des jeunes. Alors quand ils ont été portés plainte au commissariat, qu'ils ont dit qu'ils sont des musulmans, on a dit rien ne le prouve. Alors ils ont été agressés par des voyous.
Oui,
Mais on n'aura pas.
il restera bien voté en 2012.
Oui. Alors bon, résultat, en fait, c'est plus qu'une omerta. Il existe une censure. Lorsque Anne-Marie Delcambre ou Monsieur Dufour, votre serviteur, sont convoqués à la police de la pensée, eh bien. Je trouve que nous sommes en pleine inquisition. Il y a diffamation que lorsqu'il y a mensonge. Mais j'ai rediffusé sur comment dire, un poste, d'écrire le rapport de police du commissariat, je crois, de Mantes-la-Jolie, où une maman en burqa, vient chercher sa fillette qui a été arrêtée pour vol dans les magasins. Elle a refusé d'enlever sa burqa. On lui a dit que c'est la loi. Elle a répondu qu'elle ne connaît qu'une loi, c'est celle de la charia, puis celle du prophète, etc., etc. Bon. Finalement, elle est partie avec sa fillette, elle a dit qu'elle ne connaît que la charia. Et aucun policier ne lui a dit, mais madame, si vous voulez la charia, il faut couper la main de votre fille.
Oui, ça aurait été excellent.
Alors,
Effectivement,
bon, alors, j'ai diffusé
appliquons
ce.
la charia à la racaille.
Oui. Alors, j'ai diffusé ce poste et un de mes amis, oui, enfin, qui je suis en bon
Correspondant, oui.
terme, m'a dit que vraiment, que je deviens nauséabond. Et dès qu'il s'agit d'islam, je deviens raciste. Alors, je lui demande, est-ce que ce que j'ai dit est faux? Alors, il dit, le problème n'est pas là, mais les propos que je tiens, c'est une incitation à la haine des musulmans.
Ben voyons.
Alors,
Oui, mais est-ce que quand tu luttais contre les nazis, c'était une
ben
incitation à
voilà,
la haine des Allemands?
je n'ai jamais eu de la haine contre les Allemands. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, j'ai encore d'excellents amis allemands. Et avant-guerre, j'avais parmi les réfugiés d'Allemagne d'excellents amis et des camarades d'école. Je n'éprouve aucune haine contre personne. J'éprouve de la haine, oui, du mépris pour le totalitarisme et l'islam. Non pas tel qu'on le présente, certains, les bobos, les gogos, mais l'islam tel qu'il se présente à nous, c'est quand même une machine de guerre. Quelqu'un m'a dit, mais toutes les religions peuvent avoir leurs moments négatifs. Regarde les juifs, c'est pas toujours bien non plus. J'ai dit, oui, mais il y a quand même une différence. Lorsqu'on lit la Bible, la terre promise, c'est quoi? C'est décrit qu'au nord, la frontière nord de la terre promise, je crois que c'est Dan, enfin c'est vers les sources du Jourdain. Au sud, c'est au sud de Bersabé, là, celle de Negev. Enfin, quand on prend le tout, ça fait grosso modo un territoire comme la Belgique. Le judaïsme, qui est aussi une religion de conquête, conquérir la terre promise pour les tribus hébreux qui sont sans terre, eh bien, ça se limite à 30 000 km². L'appel au djihad, c'est de répandre l'islam dans le monde entier. Alors, quand même une différence. Alors, disons que le judaïsme, en plan religieux, est la religion d'une ethnie, d'une nation, donc n'est pas expansionniste. D'ailleurs, ceux qui essayent de se convertir au judaïsme, c'est un vrai parcours du combattant. Maintenant, essaye de te convertir à l'islam, tu verras, c'est un fast-food.
Ah bah il y a une phrase à prononcer. Une seule
Pardon?
phrase à, il n'y a qu'une seule phrase à prononcer.
Ah oui, je
Il n'y a
crois, oui,
que
c'est
Dieu,
la
voilà.
dawa.
Donc
Bon,
ça c'est rapide.
alors, on ne peut pas. Alors, quand on veut mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, non, je suis désolé. Il y a des religions compatibles avec notre culture, notre civilisation, nos valeurs, nos mœurs, notre esprit pacifique. L'islam, en voulant conquérir le monde, par la douceur, si c'est possible. Il y a un proverbe arabe qui dit, si tu ne peux pas mordre la main, embrasse-la. Alors attention, vous avez donc l'islam modéré, l'islam calme, l'islam gentil, aimable, l'islam du voisin qui va t'apporter du loukoum le soir de la rupture de jeûne du Ramadan, bon voisinage. Effectivement, ils sont gentils, ces gens-là. Mais il y a la machine, il y a la machine idéologique qui ne peut pas être modifiée, qui ne peut pas être, comment dirais-je, qui ne peut pas évoluer, puisque tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est intangible. Le Coran dit, nous sommes la religion parfaite, et donc il ne peut plus y avoir d'innovation. Alors, tout de même, l'islam est un totalitarisme. Pourquoi on n'en a pas entendu parler avant? Parce que l'islam n'avait pas les moyens qu'elle a maintenant. C'est un totalitarisme guerrier qui dispose d'un fric énorme que nous payons. Chaque fois qu'on fait un plein d'essence, on alimente la machine de guerre de l'islam. Bon, c'est comme ça. Ils se sentent forts. En plus, une natalité galopante. L'autre, je dirais un salopard, Erdogan, le Turc, qui va nous dire que la France a commis aussi un génocide en Algérie. Seulement, il y avait moins de 10 millions d'Algériens au début du soulèvement des Algériens contre la France. Avec le départ de 1 à 2 millions pieds noirs, chrétiens ou juifs, Eh bien, l'Algérie est passée, je crois qu'elle frise les 40 millions d'habitants. Eh bien, pour un peuple qui a eu un génocide, c'est pas mal.
Oui, et puis
À mesure de
au plus fort de la colonisation, il y avait combien de Français qui occupaient, entre
ben, il y
guillemets,
avait
en
un million
Algérie?
de citoyens de Français qu'on appelait dans le collège électoral français, ils étaient un peu plus d'un million, 1 million, 1,5 million, je ne sais pas
Voilà,
combien.
et
Il y
aujourd'hui,
avait
pour
8 à 9 millions de Français musulmans, entre guillemets.
Et aujourd'hui, il y a combien de millions
Ben,
d'Orans,
je crois que
d'Algérie, de Tunisie, du Maroc qui vivent en France?
l'Algérie seulement frise les 40 millions d'habitants.
Bien sûr.
Bon, alors, pour un génocide, c'est pas mal. Un peuple qui a eu un génocide, les Juifs, eh bien, ils étaient avant-guerre 16 millions ou 17 millions dans le monde. Maintenant, ils atteignent difficilement 11 millions.
Que penses-tu d'ailleurs, puisqu'on parle de génocide, que l'actualité récente, on parle beaucoup du génocide des Arméniens, que penses-tu de ces lois dites mémorielles, où finalement il y a une loi pour ne surtout pas, comment dirais-je, nier le génocide juif, maintenant il y a une loi pour ne pas nier le génocide arménien
Je suis gêné par ces lois. Je suis un peu gêné, bien sûr. Mais il faut aussi dire ceci, disons, je compte de nombreux amis arméniens, on en discute, c'est que si la Turquie avait reconnu immédiatement après 14-18, une période très trouble en plus, la Turquie était en guerre contre la Grèce, bien sûr, c'était une période de guerre, on regrette de toutes ces victimes, et maintenant nous sommes une Turquie laïque, et nous, sans afficher une repentance, ne pas falsifier l'histoire. Les Turcs auraient très bien pu dire, oui, il y a eu une période de guerre, de guerre civile même, entre Turcs, et la répression des Arméniens a dépassé les limites d'une simple guerre, que c'était un crime contre l'humanité. Je pense que ça aurait calmé le ressentiment des Arméniens. Or, rien n'a été fait dans ce sens, et pour cause. La Turquie, ne l'oublie pas, a toujours pratiqué une politique de nettoyage ethnique. N'oublions pas que tout l'ouest de l'Anatolie, les rivages de la mer Égée, c'était des Grecs. Et puis maintenant, et puis le nombre, la Turquie est laïque, mais elle a siégé, elle siège toujours à l'organisation de la conférence islamique, à Djeddah, je crois.
Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt, d'ailleurs je crois que tu l'avais aussi évoqué dans un article, aux historiens de faire l'histoire et pas à l'Assemblée nationale,
Ah
donc
oui,
en votant des lois
là
qui figent les choses?
je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, je suis gêné quand même. Mais j'explique l'impatience des Arméniens, parce qu'en somme, non seulement on les a massacrés, mais on a nettoyé leur territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines villes étaient entièrement ou majoritairement arméniennes. Et il ne reste plus de traces. La population arménienne de Turquie est réduite à presque rien, à pas grand-chose. Turquie est laïque, mais un Turc musulman qui voudrait se convertir au christianisme, eh bien, c'est un parcours du combattant et il risque quelques représailles. N'oublions pas qu'on tue des prêtres encore en Turquie. En somme, la Turquie est bizarre. C'est une laïcité, elle est laïque, mais c'est une laïcité musulmane. Et c'était avant Erdogan. Et maintenant, ça ne fait que s'aggraver. Et grâce aux exigences de la communauté européenne, qui estimait que le pouvoir de l'armée était incompatible avec la démocratie, ce qui est vrai, eh bien, la Turquie a bâillonné l'armée. Résultat, maintenant, la Turquie devient un État islamiste. Modéré, bien sûr. Oh, j'aime bien modéré. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas tuer tout de suite, ils ne veulent pas massacrer les chrétiens tout de suite, ils ne veulent pas les obliger à se convertir tout de suite. Mais bon, le principe, c'est, et la Turquie, l'Empire ottoman, dans son histoire, a toléré toutes les religions. Toléré, je dis, et puisque même les Juifs d'Espagne, chassés par Isabelle la catholique, ont trouvé refuge et prospérité en Turquie. C'était pas sans arrière-pensée économique, puisque grâce à quoi la Turquie pouvait rivaliser économiquement avec les pays chrétiens. Mais cela étant dit, on accepte toutes les religions monothéistes, mais sous la bannière de l'islam. ça veut dire, dans un état de subordination, ça veut dire la dimitude. Ça c'est l'islam, ensemble, l'islam modéré tolère les autres religions monothéistes, parce que si c'est une religion non monothéiste, égorge.
D'ailleurs, c'est assez amusant, mais il n'y a que pour l'islam qu'on parle de modération. On parle facilement d'islam modéré et tout le monde comprend.
On ne parle pas d'un catholicisme modéré.
Ni d'un judaïsme modéré, ni d'un bouddhisme modéré, ni d'un zoroastrisme modéré.
Mais on s'empresse. Ce mot modéré me chiffonne. Le bolchevisme n'a pas été modéré. Et quand il a essayé de le, enfin, quand il a été contraint de le devenir, ben, ça a été la mort du bolchevisme.
On est maintenant aujourd'hui le 23 décembre au soir, donc demain c'est la veillée de Noël. Sans vouloir plomber l'ambiance de ces fêtes, comment vois-tu l'avenir au regard de ce que tu as vécu et de ton expérience personnelle?
Je ne suis pas optimiste parce qu'il n'y a pas d'esprit de résistance. La résistance est bâillonnée.
Alors, qu'appelles-tu résistance aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de sites internet résistance,
c'est simple. Que Jean Raspail puisse écrire ses bouquins, mais qu'il ait une égalité de traitement à la radio, à la télé, dans les médias, pour qu'on parle aussi de Jean Raspail, et pour que les animateurs de radio, eh bien, quand ils font un plateau, eh bien, il faut pas qu'ils se conduisent en faussaire, en tolérant des perturbateurs qui empêchent ceux qui expriment une opinion contraire à l'opinion politiquement correcte, eh bien, ils peuvent plus s'exprimer librement. On te mène des pseudo-philosophes, des pseudo-historiens pour bâillonner ceux qui ne sont pas dans leur ligne. C'est exactement ce que nous avions connu au temps du stalinisme, au temps où Jdanov réglementait la pensée soviétique. Or, nous sommes dans un système soviétique, un système stalinien. Alors,
d'après toi, quelle forme devrait avoir cette résistance et comment vois-tu justement cet avenir, donc?
Je ne vais pas chanter aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Mais je crois qu'il faut, si, quand même. Et il y a maintenant, il va y avoir des élections. Eh bien, il faut sanctionner tous les, que ce soit les présidentielles ou les municipales ou les législatives. Il faut sanctionner tous les partis qui s'alignent sur le politiquement correct.
Ça réduit considérablement le champ.
Bah oui, mais, bah oui, mais que devant ou alors vote de protestation et puis ou abstention, mais effectivement montrer que le peuple ne marche pas et manifester pour avoir le droit au référendum d'initiative populaire.
Oui, pareil. Peu nombreux sont ceux qui le réclament.
Il y a eu une consultation populaire pour le traité
pour
la Constitution européenne.
Oui, le peuple a voté non.
Ça dit non, comme les Pays-Bas, mais on est passé outre. Mais où y a-t-il eu une consultation du peuple pour dire aux Parisiens ou à l'habitant de Saint-Denis, désormais tu vivras dans une ville majoritairement musulmane qui rejette la France?
Ah oui, il n'y en a pas.
Bon. On est devant un fait accompli. Alors, sommes-nous un État démocratique? Non. Nous sommes encore dans un État de droit, oui, mais droit quand même limité. Limité parce que il y a maintenant un corset qui étouffe toute volonté de résistance. Et les lois, c'est pourquoi j'ai un peu peur, non pas de cette loi, mais j'ai peur que les ennemis, j'appelle ça les ennemis de la France, de l'identité française, s'en servent pour nous priver des dernières libertés qui nous restent. C'est très inquiétant.
Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions au nom si on commence par ces lois Guesso, Pleven et compagnie, mais au nom de l'interdiction de contestation du génocide juif, plus personne ne peut dire quoi que ce soit sans être immédiatement taxé de racisme, taxé d'antisémitisme, taxé d'islamophobie, taxé, et tu en sais quelque chose pour avoir été convoqué avec Madame Delcambre au commissariat de la rue du Château des Rentiers pour ça, donc pour des crimes d'idées finalement. Donc quelque part, tu parlais de soviétisation de la France, dans un article, tu parlais de balkanisation à venir, ou de libanisation, mais finalement, ces lois participent justement à la répression de la parole.
Absolument, c'est pour ça que je suis très embarrassé. D'une part, ça m'enquiquine que la Turquie puisse impunément se déclarer irresponsable du meurtre de l'extermination d'une partie non négligeable. Je crois que c'est un Arménien sur 4 ou 5 qui a été exterminé.
Oui,
Oh,
mais
bien
pas
sûr, il n'y a pas eu de chambre à gaz.
oui, mais de la
Ils ont
même
ramassé des populations, on les a fait marcher à pied dans le désert pour les éloigner de quelques centaines
Oui,
de
mais
kilomètres de.
moi, ce qui peut me déranger également, c'est que on fait une loi pour le génocide juif, on fait une loi pour le génocide arménien. Pourquoi n'y a-t-il pas une loi pendant qu'on y est? Parce que c'est sans fin pour le génocide cambodgien, par exemple, puisque la gauche nie toute sa responsabilité ou des crimes de Staline, ou de certains crimes de la Révolution française contre les Chouans. Je pense que c'est sans fin. Il se trouve que c'est toujours un petit peu. Dès que la gauche, quelque part, est en
Elle ne vient
cause.
pas de la gauche, cette proposition de loi ne vient pas
Je sais,
spécifiquement de la gauche.
mais je dis simplement que dès que la gauche est en cause, c'est un peu le silence radio. On attend toujours un Nuremberg du communisme, et je crois qu'on peut
Oh
l'attendre
ben
longtemps.
jamais, jamais. Où y a-t-il eu des procès pour rendre justice à toutes les victimes du stalinisme? Quand je pense que les communistes la ramènent encore aujourd'hui et qu'on ne veut pas et qu'on veut interdire de parole Marine Le Pen, mais Marine Le Pen représente un quart ou un cinquième de l'électorat français. Ben, elle représente des Français. Elle a le droit à la parole, et quitte à ne pas la partager. Mais bon, mais qu'elle s'exprime. Or, les communistes, ils peuvent parler à gorge et en veux-tu, en voilà. Tous ceux qui ont soutenu le Mao, ils sont nombreux, nos intellectuels qui ont soutenu le maoïsme et qui ont soutenu Pol Pot. Et ah, ils se sont trompés, mais ils sont sur le devant de la scène, ils continuent à nous donner de leçons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un crime de gauche est un crime.
Oui, si on devait établir une comptabilité macabre, la gauche est responsable de plus de crimes que le commun, enfin que l'hitlérisme et le fascisme réunis.
Et c'est pas compliqué. Et lorsque le Parti communiste actuel est l'héritier d'un pouvoir qui a fait, je sais pas combien, 50, 60 millions de morts, à l'intérieur de leurs
Rien qu'en Union
frontières, les
soviétique.
goulags, les exécutions sommaires. Bon, et ben c'est quand même grave. Et le Front national n'a pas à son actif. On va dire, Le Pen a été tortionnaire en Algérie.
Quelle
C'est de la connerie.
foutaise.
Bien sûr qu'il y a eu des tortionnaires, mais ils ont fait quoi? Ils n'ont pas été là-bas en touriste. C'est le gouvernement de gauche, qui est le gouvernement socialiste, qui a envoyé le contingent se battre en Algérie. Alors, maintenant, on va pas maintenant faire un procès au Troufion qui était en Algérie et qui a tiré sur un tueur arabe. Non, mais c'est démentiel, cette histoire-là. C'est pourquoi cette loi sur le génocide arménien, enfin sur, elle me met mal à l'aise, mais d'autre part, il y a aussi cette arrogance turque qu'il faut faire le procès de la Turquie. Et autre chose, nous sommes une Union européenne, nous devons solidarité entre les pays à l'intérieur de l'Europe. Or, la Turquie occupe un État de l'Union européenne. Quand on parle de territoire occupé, on désigne les Israéliens qui construisent des appartements sur 1 ou 2 hectares de plus. Mais on oublie que la moitié de l'île de la République chypriote, la moitié est occupée par les Turcs. Et que les Turcs ont envoyé des colons s'installer à la place des Grecs dans cette partie nord. Qui c'est qui en parle? Personne. Or, il y en a ras-le-bol. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans l'île de Chypre? Et la Turquie est toujours candidate à l'entrée dans l'Union européenne, mais comment peut-on faire entrer dans l'Union européenne un État qui est en guerre, qui a agressé, qui a occupé la moitié d'un membre de l'Union européenne?
Oui, ça, c'est un peu le souhait, c'est un peu aussi le souhait des États-Unis qui, au nom de leurs intérêts personnels via l'OTAN, font pression également pour qu'on accepte la Turquie dans l'Union européenne. Mais quel est l'intérêt français, quel est l'intérêt européen là-dedans?
On n'a rien. Ils sont 80 ou 90 millions de Turcs, qui seront bientôt 100 millions. Ceux qui vivent en Europe et en Allemagne en particulier, il n'y a pas un commencement d'intégration à l'Allemagne. Ils restent en une communauté fermée, turque. Ils sont à la fois, c'est du national-islamisme, les Turcs. Nous savons ce que ça veut dire. Et ça représente déjà un cheval de Troie. Moi, je
Qu'elle est
dis
maintenant?
l'Europe telle qu'elle est maintenant, je la trouve fichue, elle n'a plus d'avenir. On en a fait un corps sans âme, un marché. D'ailleurs, ça a commencé par un marché. Le traité européen, c'est un traité pour protéger le marché, mais il n'y a rien pour l'européen. Il n'y a pas de. On parlait du vote des immigrés et des étrangers aux élections locales. On a quand même voulu encourager ce sentiment d'européanéité ou d'européité en donnant un droit de vote aux étrangers communautaires. Ce qui fait qu'un Français peut voter quand il habite à Riga, et puis le Letton peut voter en France, toujours au municipal, s'il habite la France. Bon. Je trouve ça normal. Eh bien, nous avons les ennemis de la France, j'appelle ça le gauchisme, qui a introduit au Sénat le projet de faire voter les étrangers aux municipales sous prétexte qu'il n'y a aucun impact politique. Comment ça, il n'y a pas d'impact politique? Qui c'est qui désigne le Sénat, ça vient de quoi? On a vu qu'avec la gauche étant majoritaire au municipal et au régional, a conquis le Sénat. Et j'ai assisté à une scène d'hystérie, cette espèce de franco-israélienne, là, comment s'appelle, Esther
Oh
Benbassa,
mon Dieu.
qui est une fumiste et avec des statistiques bidons, avec des sondages bidons. Mais pour moi, c'était le déchaînement de l'hystérie au sein de ce Sénat, dont on va garder l'image de respectabilité, de sérieux, de modération.
C'est un avant-goût de ce qui nous attend avec François
Ah, oh, ben
Hollande,
ça,
parce que c'est la
c'est.
première chose qu'ils ont décidé de faire.
Ben avec cette équipe-là, ben le Sénat, ben c'est devenu le territoire de la chienlit.
Ah oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'alternance UMP-PS-PS-UMP qui fait que, de toute façon, il n'y a absolument aucune issue. Et nos compatriotes vont de nouveau voter pour cette alternance UMP-PS.
Oui, c'est-à-dire on vote pour la même chose, quoi.
Bonnet blanc, bon bonnet, parce que
Oui, on vote pour la même chose.
dans les
Et
candidatures, et Bérou, la même.
oui, puis ça sera. La différence se jouera sur la dette française.
Oui,
Avec
bon,
la
ça.
gauche, on s'endettera un peu plus pour engraisser des comités d'entreprise qui volent. Qui volent. Dans les comités d'entreprise des grandes entreprises, eh bien, ce sont des petites mafias qui se sucrent sur le dos des entreprises et sur le dos des autres travailleurs. Or, c'est quoi? Les syndiqués représentent à peine 8% des travailleurs. 8%. Et c'est eux qui emmerdent le monde. Alors, quand j'entends dire maintenant qu'envoyer la police ou l'armée pour assurer la sécurité des aéroports, c'est une atteinte au droit de grève. Ce n'est pas une atteinte au droit de grève, c'est une atteinte au droit de nuisance. Et le drame, c'est que le syndicalisme, faute d'effectifs, et pour montrer qu'il existe, exerce la nuisance et non plus la défense de la classe laborieuse.
Oui, et quand tu vois Terra Nova, le think tank du Parti socialiste, qui, dans un rapport, dit qu'il, finalement, plus que la classe ouvrière vote Front National et ne vote plus pour la gauche, on va se désintéresser des classes laborieuses pour finalement faire de l'immigré, justement, la nouvelle classe laborieuse. Tout cela, enfin, et quand on voit la masse qui continue à rentrer chaque année, le rythme
C'est
auquel
tout à fait
ça rentre.
effarant. Et quand je pense que les étudiants dont nous avons besoin, les étudiants français ou les étudiants étrangers qui vivent en France, ils ne trouvent pas à se loger ou alors ils payent à des prix exorbitants et on va distribuer des terrains à l'œil ou presque pour construire des mosquées. Non mais c'est dingue, je trouve ça ubuesque, cette histoire-là.
Oui, mais cette
La
ubus.
caserne de Clignancourt, on aurait pu très bien faire un foyer pour les étudiants. Étudiants, quelle que soit leur origine, je dis bien, parce que la France, le monde a besoin d'étudiants, des hommes qui savent, de futurs chercheurs, de futurs médecins, et non pas des imams.
Mais
Enfin,
oui, mais il ne s'est trouvé que Marine Le Pen pour dénoncer cela. La gauche, la droite, l'UMP, le PS, le
oui, je
centre,
sais,
ils sont tous d'accord.
ça s'appelle des propos nauséabonds.
Ah oui, ça nous rappelle les heures les plus sombres, comme
Alors bon,
d'habitude.
ben, nous on fait du nauséabond et ils nous foutent dans la merde.
Ben, ils nous foutent dans une merde, je pense que tout ça va se terminer dans un bain de sang à brève
Et je ne
échéance.
sais pas, mais disons, je me fais vieux et je n'arrive plus à analyser la. Si, je constate, mais je me dis, mais où sont ceux qui sait? J'ai l'impression on a pris des précautions, on nous a mis sous le politiquement correct, c'est une forme d'anesthésie. On commence par par nous anesthésier. Ensuite, on peut se livrer à des expériences médicales sur notre corps. On ne sait plus se défendre.
Peut-être que la défense, justement, consisterait à ce que le peuple français ait encore plus mal, peut-être. On a l'impression, puisqu'il ne sent pas la douleur, peut-être qu'il faut qu'il ait encore plus mal pour pouvoir peut-être réagir. Parce que, bon, on sent un frémissement de ras-le-bol, on entend la parole se libérer un peu plus, mais ça ne se traduit pas, même pas dans les sondages.
Oui. Mais j'attends une chose, qu'on pose cette question aux différents candidats aux élections, qu'ils soient des candidats à la présidentielle ou que ce soit aux municipales ou aux législatives.
Ah ben je pense que la
Et
réponse sera politiquement correcte.
stop et immigration zéro. Même pas pour le regroupement familial.
Il nous manque
Immigration
des hommes
et
d'État.
dérogation, immigration sur contrat de travail répondant à une nécessité de l'économie française.
Et encore une
Alors,
fois, oui,
on n'a pas
certes,
besoin
mais
de faire immigrer des imams saoudiens parce
qui
que
en dehors de Marine Le
on
Pen, une
en, on
fois
en
plus?
permettra lorsque les Saoudiens permettront à des missionnaires catholiques d'exercer en Arabie Saoudite. Je ne veux pas défendre les missionnaires catholiques, mais je ne vois pas pourquoi ils peuvent déverser leur saleté chez nous et que nous, on ne peut rien faire chez eux. C'est déjà plus d'immigration, parce qu'il faut d'abord digérer ce que nous avons. Nous en avons tellement. Et puis, ceux qui sont en situation irrégulière, eh bien, ce n'est pas compliqué. Arrêtons de larmoyer, de dire les pauvres enfants, le traumatisme. Oui, bien sûr que c'est traumatisant, mais les parents n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. D'abord, il y a les parents. Ils savent qu'ils font un acte illégal. Eh bien, lorsqu'un cambrioleur se fait prendre la main dans le sac et que ses enfants le voient embarqué et menotté au poignet, c'est traumatisant pour les enfants. Mais c'est la faute à qui? Au policier qui a arrêté le voleur ou au voleur qui n'a pas craint d'exposer ses enfants à ces traumatismes.
Et alors que
C'est toujours pareil. On veut rejeter la culpabilité sur les innocents et trouver des circonstances atténuantes aux coupables. Ça marche pas, on marche sur la tête. Alors maintenant, là, il y a un autre problème, puisque cet imposteur de Stéphane Hessel a écrit Indignez-vous, et que l'indignation s'exerce à 99% sur Israël et il se tait sur le reste. On dit maintenant les Israéliens sont fautifs du blocage de négociations de la paix parce que dans Jérusalem, qui est majoritairement juive et qui est la capitale historique du peuple juif, ils ont sur 1 hectare, ils ont construit 20 ou 30 ou 50 ou 100 logements. Oui, c'est très grave. Mais où sont les indignations contre le Soudan? Dont les chrétiens et les musulmans noirs se sont fait massacrer 1 ou 2 millions, je sais pas, je crois, 1 ou 2 millions de morts.
Sans
Où
oublier le
sont
léniniste.
les flottilles de la paix? On n'en a jamais entendu. Et puis, moi, je connais aussi des colonisations illégales. Kaliningrad, qui est une espèce d'abcès, de verrue sur le corps de l'Union européenne. Faut pas l'oublier, c'était Königsberg, vidé de sa population allemande par la loi du vainqueur, et devenue la ville soviétique, c'est-à-dire russe, de Kaliningrad. Ça s'appelait Königsberg, c'était quand même la ville où Kant, philosophe non russe, mais allemand, a pu quand même enseigner. Eh bien, on trouve ça tout à fait normal quand même.
Mais on trouve ça tout
Et
à fait
puis,
normal dans toute
on
l'histoire du
trouve
monde.
scandaleux d'expulser une famille une famille d'immigrés illégaux dont le fiston trafique peut-être de la drogue, mais ça ne fait rien. Il faut le punir pour la drogue, mais pas l'expulser parce que ça serait l'horrible double peine. Mais de sang-froid, on va dire qu'il y a 300 ou 400 000 Israéliens qui vivent au-delà d'une ligne verte qui n'a jamais été une frontière internationale. C'était une ligne d'armistice, une ligne de cessez-le-feu en 48. Eh bien, on envisage froidement d'expulser tous ces gens-là pour venir s'installer ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, mais c'est surtout de quoi se mêle-t-on?
On veut soutenir la création d'un État palestinien, mais on oublie une chose. C'est que lorsque, en 48, avec cette fameuse ligne verte, il y avait une population juive installée à Jérusalem Est, dans la vieille ville, et dans quelques points de la vallée du Jourdain, mais tombés sous la domination jordanienne, ces juifs, ils ont eu la chance, ils n'ont pas été massacrés, ils ont été expulsés. Ce qui fait qu'en territoire jordanien ou palestinien, il n'y a pas un seul juif qui est autorisé à séjourner. Par contre, Israël a quand même 20% de sa population qui est arabo-musulmane.
Mais tu as des meilleures connaissances historiques certainement que moi, mais il me semble que dans le partage de l'ONU, il y avait donc la création d'un État juif et d'un État arabe, et que les Britanniques ont amputé la Palestine en créant la Jordanie.
Ah oui, ça c'était pas l'ONU, c'était la Société des Nations, la SDN, effectivement, a donné la Syrie avec la Syrie à la France sous mandat. La France qui s'est dépêchée d'en détacher la façade maritime qu'ils ont baptisé l'État du Liban. Et puis les Anglais, eux, ben ils se sont dépêchés alors qu'ils étaient chargés de gérer, de faciliter l'installation des juifs dans ce pays, eh ben ils ont coupé le pays, ils ont le deux tiers du territoire à l'est du Jourdain, c'est devenu la Transjordanie, et la Palestine même était un territoire ouvert à l'immigration juive. Et ils ont ouvert le territoire à l'immigration, mais surtout musulmane, arabe, et ils ont limité l'immigration juive de telle sorte qu'en 47-48, les juifs étaient encore minoritaires dans ce pays. Lorsqu'en 48, les Israéliens ont réussi à battre la coalition de tous les États arabes contre Israël, eh bien, il restait une partie que la Jordanie a acceptée, qu'on a appelée la Cisjordanie. Mais pourquoi n'a-t-on pas créé immédiatement sur ce territoire, sur lequel il n'y avait pas encore de colons, entre guillemets, juifs, pourquoi n'ont-ils pas proclamé l'État palestinien? Ils n'ont pas fait. Arafat, dans sa charte de l'OLP, a dit que les Palestiniens sont un élément de la nation arabe. Il y a une nation arabe, il n'y a pas de nation palestinienne. Alors maintenant que la France veut créer un État palestinien, elle élève la voix quand on construit 200 logements ou 20 logements, eh bien, je dirais une chose, il y a 25 millions de Kurdes et entre la Turquie, l'Irak et l'Iran, qui veulent un État kurde. Pourquoi personne ne propose un État kurde? La Turquie a décrété que les Kurdes sont des terroristes, et tout le monde a dit « Amen ». Bon, n'empêche que 20 millions de Kurdes, qui contrairement aux Palestiniens qui sont arabes, les Kurdes ont leur propre langue, leur propre culture, c'est bien… On a un drapeau palestinien à l'ONU, alors qu'il n'existe aucune culture spécifiquement palestinienne. Il existe une culture kurde,
mais crois-tu
et il n'y a pas un drapeau kurde à l'ONU.
Crois-tu que
à l'UNESCO, pardon.
Crois-tu que la politique étrangère de la France est dictée par le nombre de musulmans qui vivent sur son territoire aujourd'hui?
En partie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des jeux d'équilibre. Pourquoi est-on entré dans le lard de Kadhafi et puis qu'on l'a fait chuter, on s'est engagé sur un terrain étranger pour faire tomber une dictature ubuesque, mais elle va être remplacée par une dictature islamiste, et puis c'est tout.
Je pense qu'on peut remercier Bernard-Henri Lévy.
Pas la Syrie, parce que la Syrie, il y a un jeu d'équilibre international, il y a beaucoup de raisons qui font que... Puis deuxièmement, entre nous, je suis pas très très chaud que cet horrible Hafez al-Assad tombe. Parce que ça serait remplacer un dictateur sanguinaire par une dictature islamiste. Parce que, qu'on ne s'y trompe pas, partout où les tyrannies tombent, où le peuple a une liberté d'expression, eh bien, cette liberté se tourne vers le choix d'un régime islamiste qui est totalitaire dans son essence. S'ils ne font pas de massacre tout de suite, ça ne tardera pas. Moi, le printemps arabe ne m'intéresse pas. Qui s'entretuent, c'est pas que j'aime ça, mais qui se démerdent entre eux.
Pour terminer, quels sont tes vœux pour 2012?
Mes vœux, c'est que l'imposture soit démasquée, l'imposture de ceux qui nous gouvernent, l'imposture des pseudo-intellectuels qui ne sont jamais que des carpettes. Ce sont, à mon avis, tous ces pseudo-intellectuels qui tiennent le haut des plateaux de télévision, pour moi, c'est de la merde, parce que ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs, et ce sont ils préparent le ils préparent l'avènement d'un nouveau Big Brother. Et ça, mes voeux, ben c'est ça, que le peuple prenne le dessus. Après tout, on parle d'un printemps arabe, je voudrais bien avoir un printemps français, ou qui voit tomber toutes ces dictatures de la bien-pensance. C'est peut-être mes voeux pour 2012.
Eh bien, André
J'ultime
Dufour,
le printemps des États européens, le printemps de la France.
merci beaucoup, André, pour nous avoir accordé cet entretien et on va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Je sais que tu as
Essayera,
des... Je sais
puis.
que tu as quelques difficultés à écrire en ce moment et peut-être que cette forme parlée sera peut-être plus simple.
Peut-être, mais enfin, je compte me remettre un peu à l'écriture. J'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont tenu, et puis problèmes familiaux qui m'ont tenu un peu éloigné de la plume. Mais je dirais que j'espère, et c'est un vœu que j'exprime pour moi, que 2012 soit l'année de la reprise de ma plume. Après tout, je suis jeune, je n'ai que 88 ans.
En tout cas, je pense que je me fais le porte-parole de tous les libertinautes et tous les lecteurs de LibertyVox qui vont être vraiment très contents de t'entendre et qui te remercient certainement pour tes vœux et qui te souhaitent également un très joyeux Noël et une excellente année 2012 si on ne se
Voilà,
reparle pas d'ici
et
là.
que la paix soit dans nos cœurs.
Merci beaucoup, André.
Je t'en prie.